RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La suite des grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, avec autour de la table ce matin Antoine Diers, le consultant de Dunkerque, Zora Bitant, la fonctionnaire, Abel Boyi, l'éducateur, et notre invité qui vient d'arriver.
RMC, face aux grandes gueules.
Mathieu Delormeau, bonjour.
Bonjour.
Chroniqueur télé, notamment Tout beau tout neuf sur W9 avec Cyril Hanouna, et surtout auteur de ce livre Addiction au pluriel, qui paraît demain aux éditions Le Duc, dans lequel vous racontez d'une façon directe, j'ai même envie de dire assez crue, la façon dont vous avez vécu 2 ans de toxicomanie. Vous avez d'ailleurs failli y laisser votre peau, c'est ce que vous nous racontez, on va y revenir. Et comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sorti de tout ça?
Ah, c'est gentil, ça va super bien, je suis en voie de guérison, on va dire.
D'ailleurs,
j'aimerais bien écrire la suite un jour, parce que si jamais celui-là marche, mais parce que c'est très compliqué de s'arrêter, mais il y a tout l'après. Vous gérez l'inertie du bateau, quoi. Bah, c'est-à-dire que on y va tout doucement. Aujourd'hui, j'ai plus d'anxiolytique, plus qu'un antidépresseur. J'ai plus d'anxiolytique. Voilà, j'ai une vie qui est assez bien réglée. Je fais du sport, je me couche tôt, je travaille. Je suis dans la phase où il faut que je fasse attention. C'est-à-dire que je ne me provoque pas. Voilà, je sors pas, je fais attention avec qui je sors, je me renseigne à chaque fois si je vais quelque part. Est-ce qu'il y a de la drogue, est-ce qu'il y a de l'alcool, est-ce qu'il y a machin. C'est un métier de se soigner. Hein. C'est un métier de se soigner.
Vous avez été accro à la cocaïne.
Ouais, et au GHB.
Et au GHB. Alors expliquez le GHB
Le GHB, c'est une drogue encore une fois assez moderne. Malheureusement, il y a quasiment une nouvelle drogue qui sort tous les 3 ans. Les dealers s'adaptent énormément aux jeunes, à leur portefeuille. Ils font de la drogue de synthèse. Vous le savez, la 3MC, c'est une cocaïne de synthèse. Comme ça coûte trop cher la cocaïne, bon, on fait la même, qu'on reproduit de manière synthétique, et c'est pire, c'est encore plus dangereux, et ça vaut 10 ou 15 € pour les jeunes plutôt que 70 € le gramme. Voilà. Et le GHB, bah, c'est un petit liquide qui, à l'origine, comme toujours, a été détourné. Exactement. C'était un décapant très, très fort qu'on pouvait mettre dans des karchers, des machins, pour enlever la rouille sur les jantes, tout ça. C'était un décapant très, très fort. Et maintenant, on le noie un peu dans de l'eau, et on boit ça. Et ça donne un effet, pendant une heure, un effet euphorique de chaleur incroyable.
Comment vous avez basculé dedans?
Tout simplement
parce... À quelle occasion?
Eh ben, c'est bien, c'est pour vous dire que quand je vous dis que ça se démocratise, c'est que tout simplement, un soir, tout seul, après avoir quitté mon copain et mon boulot, petite dépression qui y arrivait quand même, mais un soir, j'ai été chez des gens qui m'ont proposé de venir pour m'amuser. J'étais célibataire, j'ai dit pourquoi pas, ça fait longtemps. C'était un couple de médecins. Il y avait un urgentiste et un anesthésiste. Donc, ah, tu veux dire qu'ils avaient toute la panoplie. Et quand ils ont commencé à me dire, bah, t'as déjà essayé le GHB? Jamais. Mais c'est formidable pour le sexe. C'est que pour le sexe. Bon, moi, je trouve que pour le sexe. C'était des médecins qui me proposaient. Si c'est des médecins, c'est pas mauvais. Tu vois? Et donc voilà, j'ai fait une nuit sous ce produit qui est
pour le
incroyable.
Sexe. Pourquoi? Parce que ça permet. On en a beaucoup parlé avec l'affaire Pierre Palmade. C'est ce qu'on appelle les soirées chemsex. Ça permet de tenir toute une nuit et d'être performant, quoi.
Exactement. Ces soirées chemsex, maintenant, c'est des laboratoires chimiques. C'est-à-dire que vous prenez effectivement, en général, de la 3MC ou de la cocaïne qui vous permet de garder. J'ai vu moi. J'ai reçu chez moi quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis 5 jours et 5 nuits.
Ah oui.
Et tu dois vous dire qu'il a fini chez les pompiers. En tout cas, 3 nuits, c'est un gros classique aujourd'hui des jeunes. Voilà. Donc vous avez de la 3 ou de la cocaïne pour maintenir, ou des amphétamines, le corps éveillé. Ouais. Et le GHB, ou d'autres produits, de la tina, il y a plein de choses, qui vous donnent un effet super agréable. Donc les deux se marient bien. Voilà.
Ouais, je vous écoute, et ce qui me terrifie, c'est la perte totale de prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'on a totalement oublié dans cette société que prendre soin de soi, c'était d'abord une responsabilité individuelle, mais que ça commence comme ça. Quand on prend soin de soi, moi je fais partie aussi des générations à l'époque où il y avait énormément de drogue, et moi j'ai un souvenir particulier, je devais avoir 17 ans, 18 ans, et j'étais au café, à l'époque le café c'était l'endroit où on se retrouvait tous entre les cours. Et il y a un mec qui devait avoir 4-5 ans de plus que moi. Il me dit, je dois appeler une fille. Mais comme ses parents sont assez durs, il faut que ce soit une fille qui appelle. Et je descends, à l'époque, il y avait des cabines téléphoniques. Et je descends dans la cabine téléphonique avec lui. Et il ferme la porte et il me dit, est-ce que tu peux tenir le garrot?
Ah oui.
Et donc, il allait se faire un shoot, en fait. Et évidemment, j'étais jeune, je pouvais pas sortir, etc. Et donc je regardais pas, parce que moi c'est des trucs qui me terrifient. Et quand il a fini, il me dit, lève ta manche à ton tour.
Ah.
Et en fait, il était parti pour que moi aussi je me pique. Et moi, j'ai eu peur. Et en fait, ce qui m'est venu à l'idée, c'est que j'ai pas envie d'être malade. Voilà.
C'est
voilà.
Un très bon raisonnement.
Voilà.
Et ça, je retiens ce que dit Zora, c'est-à-dire que voilà. Faire attention à soi-même, c'est-à-dire que vous étiez dans un état à l'époque psychologique, ça comptait plus en fait.
Ce qui est très important à dire, parce que je sais que l'émission, faut aller vite, ce qui est très important à dire, c'est qu'effectivement.
On a le temps ici, justement.
Ah, effectivement, madame, c'est que là où on pense plus à notre santé, c'est parce que les gens nous en parlent plus.
Bah, voilà.
Moi, j'ai voulu montrer un livre très dur, mais juste pour dire aux gens, si vous voulez vous droguer, allez-y, je suis pas votre mère, je suis pas votre père, mais vous pourrez pas dire, je ne savais pas.
Voilà.
Puisque quand vous allez vous droguer, il va vous arriver ça. Et peu importe qui vous êtes, hein. Riche, pas riche, animateur, intelligent. Le chemin est le même pour tout le monde. Alcool, TMC, tout ce que vous voulez, c'est le chemin, c'est le même. La drogue est trop puissante. Donc, ce chemin-là, ce qui va vous arriver, c'est ça. Et c'est vrai que très souvent, aujourd'hui, quand on parle de narcotrafic, les hommes politiques vous parlent du marché noir, de l'argent, du Venezuela, de. Mais on s'en fout de ça quand on est malade.
Il faut parler des
gens. Il faut leur dire aux gens ce qui va vous arriver. Ce qui va vous arriver, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. La cocaïne, ces drogues-là, c'est l'abstinence ou la mort. On l'a encore vu avec Johanna, c'est ça. Et on cache le quotidien aux gens. Ce que vous avez vu là, ce que vous allez lire, c'est la vraie vérité. Vous avez envie d'avoir là-dedans des nausées, le nez blindé, vous saignez, vous
tenez les maladies parano, encourues.
Oui, mais en même temps,
j'ai failli finir en prison. En prison.
Oui, alors on va y revenir. Mais en même temps, le danger de la chose, c'est que c'est lié aussi. Vous l'avez dit vous-même, à la soirée, à la fête, au sexe. On est désinhibé. Voilà, ça procure aussi du plaisir.
Évidemment, mais ce qu'il faut savoir, c'est, je pense qu'il faut apprendre à se connaître un petit peu, et il faut savoir que ça touche pas tout le monde de la même manière. Si effectivement, vous savez, ce truc-là, c'est un peu Madame Irma quand vous allez dans une caravane et que vous faites tirer les cartes. Quand vous êtes pas bien dans votre vie et tout ça, vous faites un peu avoir. Oui, effectivement, déjà, la drogue, n'y touchez jamais. Mais n'y touchez jamais si vous n'allez pas bien.
Il faut rappeler que, peut-être que cette interpellation par la police.
Bien sûr.
C'était en juillet 2024, a sauvé votre peau.
Oui, elle a sauvé ma peau. C'est paradoxalement, la police a fait son travail correctement, parce que franchement, ils m'ont arrêté.
Rappeler les conditions.
J'étais chez moi et j'avais effectivement commandé auprès d'un dealer habituel. Au début, vous prenez beaucoup de faites attention, puis après, comme ça marche, faites moins attention. Donc il est arrivé, il y avait un heure fixe, et moi chez moi il y avait une caméra en bas de l'immeuble, et donc il a sonné. J'ai vu sa tête, je l'ai fait monter, et en fait la police l'avait déjà arrêté dans la rue, lui avait mis sa tête devant la caméra. Hop, ils l'ont baissé, ils sont passés sous la caméra, ils sont montés. Et là, j'ai ouvert ma porte en attendant qu'ils montent. Et là, j'ai entendu, je ne vais pas vous dire, mais je pensais à ma grand-mère pendant la guerre, elle me disait, j'entendais des bottes d'Allemands qui montent. Et là, j'entendais des bottes et des gens qui parlaient. J'ai su tout de suite. Et là, ils sont arrivés à 7-8, bim, plaqué au sol, garde à vue, monote, voilà.
Et ensuite, vous avez été en cure des intoxications.
De mon fait, c'est là où la justice est moyenne. Parce que la justice, quand vous faites, vous êtes en prison et que vous prenez 2 grammes ou 3 grammes de cocaïne par jour depuis 2 ans, vous êtes complètement accro, vous êtes malade.
Oui.
Et là, ils vous mettent en prison 24 heures, vous êtes tremblant dans un truc parce que vous n'avez pas de drogue. Et quand vous sortez, ils vous disent, non, ils vous donnent un PV de 500 euros et ils vous disent, je te préviens, pas intérêt à te choper. La deuxième fois, on sera moins clément. Mais imbécile. Quand je suis sorti, la première chose que j'ai faite 2 heures après, je pensais même pas à ma famille, la presse, de recommander.
Mais oui.
Mais le livre est très profond. Il y a beaucoup de mélancolie.
C'est gentil.
Et il est même écrit, je dirais, comme une histoire d'amour entre vous et la drogue qui a été votre amant.
Oui.
C'est cet amant qui vous a dragué au travers de 4 phrases que vous détestez. La drogue, c'est répétitif. J'arrête quand je veux. Vas-y, prends-en, ça ira mieux. Et plus personne ne veut de toi sauf moi. Et vous parlez comme d'une personne qui a été victime d'une violence coercitive, puisque ça vous a détruit votre vie sociale. Et j'ai 2 questions rapidement. Vous êtes en rémission. Êtes-vous toujours un petit peu amoureux de cet amant? Et 2, on dit que quand on arrête une addiction, il faut le remplacer par quelque chose. Par quoi remplacez-vous cette addiction que vous avez eue?
Déjà là où c'est très très bien vu, c'est qu'effectivement c'est totalement ce qu'on appelle une histoire de maltraitance. Voilà, ça existe aussi chez les hommes.
Comme une violence.
C'est comme si j'avais vécu avec quelqu'un qui m'a maltraité. C'est ça, la drogue. C'est vraiment horrible. Et effectivement, pour vous répondre, aujourd'hui.
Êtes-vous toujours amoureux de cet amant et
c'est une lutte.
Remplacer cette addiction par quoi?
Il faut justement ne pas faire de report, parce que le cerveau est mal foutu. Si vous arrêtez la drogue, il va essayer de chercher du sucre. J'ai eu des crises de sucre, il va chercher de l'alcool, des cigarettes.
Mais après des somnifères aussi à un moment donné.
Des somnifères. Là, je prends plus d'anxiolytiques, mais j'ai encore des somnifères. Mais le cerveau veut toujours une récompense. Donc,
le sport, ça vous aide aujourd'hui?
Le sport, j'en fais beaucoup, absolument. Il faut essayer de leurrer son cerveau avec des récompenses.
Le travail?
Aussi, bien sûr.
Parce que votre dépression est liée aussi au fait que vous aviez perdu votre job. Donc,
le job et puis la solitude. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que je vous dis est vrai? Pendant 2 ans, j'ai calculé, pendant 2 ans, je suis sorti 2 fois de chez moi.
C'est
deux fois de chez moi. Ah, donc, j'ai vécu 700, je ne sais pas combien de jours, dans mon appartement.
Ah bon?
Ouais.
Et pourquoi? Pourquoi vous n'y êtes plus sorti?
Parce que j'étais devenu complètement parano, agressif. C'est-à-dire que j'allais à la pharmacie, par exemple, et je disais une boîte de Doliprane, et elle me disait autre chose. Je disais pourquoi? Je sais pas, monsieur. C'est quoi le problème? Je sais pas. Une fois, il y a une fille qui est rentrée dans une pharmacie. Je vous promets que c'est vrai. Il y a une femme qui rentre en pharmacie. Et elle m'est passée devant. Bon, parce que là. Et, je dis, madame, vous êtes passée devant. Oui, bah, je suis pressé, monsieur. J'ai la pharmacienne, c'est une honte. Vous lui laissez tomber. Non. Je pars dans la rue. Je la chope. Je lui cours après. Je l'insulte. Je la traite de pute et tout. Il y a un monsieur qui arrive, qui essaie de s'emmêler pour nous séparer. Non, mais je me dis, rentre chez toi. Tu deviens fou. Mais fou. Je devenais parano, agressif, pour me protéger et protéger les autres. Donc je ne faisais, j'avais de l'argent que j'ai perdu, mais je faisais exactement, j'appelais que des gens qui venaient me donner des courses. Mm-hmm. Je rappelle, mais c'est vrai que quand je voulais une boîte de Doliprane, j'appelais un taxi moto. Donc c'est 90 euros pour y aller, 2 euros et Doliprane, 90 euros pour revenir, et il me facturait 182 euros la boîte de Doliprane. Voilà.
Question un peu perso. Vous écrivez qu'à 30 ans, on vous promet mondes et merveilles. Vous êtes jeune, beau, on vous promet un destin à la Alain Delon, j'ai presque envie de dire. Dans votre chemin, justement, dans cette violence conjugale avec la drogue, question un peu personnelle, la perte de votre maman.
Bien sûr, bah, la perte de maman.
À l'âge de 9 ans.
Mais j'aime pas trop dire ça parce que dans chaque famille, il y a un drame. Mm-hmm. Et donc, je vais pas dire aux gens, moi, j'ai eu un drame, donc je suis tombé dedans. Parce que ça touche tout le monde. J'ai eu chez moi, dans mon appartement, des flics, des ministres, des ouvriers, tout. Et ça touche de plus en plus les cabinets modestes.
Pourquoi je pose la question? Parce que vous écrivez en amont, et pour moi, c'est ça le premier terreau. Vous n'êtes pas heureux, mais tant que vous n'êtes pas malheureux, ça va.
Ouais, et vous avez.
C'est déjà ça le problème.
Mais il paraît que c'est ça la définition du bonheur. C'est tout que par la négativité. C'est-à-dire qu'en fait, le bonheur ne se définit pas, mais si tu n'es pas malheureux, par définition, tu es heureux. Je sais pas, mais ce que je sais aussi, c'est que. J'aime bien cette phrase que j'ai. Elle m'est venue une nuit dans le lit, mais les gens me disent souvent bravo, c'est très fort, très courageux d'arrêter la drogue. Non, ce qui est très courageux, c'est de ne pas commencer. Mm-hmm. Parce que tous autour de la table ici, vous avez tous un moment dans votre vie, il y a un petit burn-out, mm-hmm. une séparation, mm-hmm. vous allez mal, mm-hmm. et je vous promets, un ride de cocaïne, toute l'anxiété s'en va. Mm-hmm. Mais toujours pareil, les remèdes miracles, par définition, mm-hmm. vous les payez un jour. Si c'est facile, ça se paye un jour.
Que ça marche.
Et moi, les gens qui osent dire je vais pas bien, mais je prends pas d'exomil, pas de machin, pas de médicaments et je me bats, bravo, parce que moi j'ai été comme toujours à fond de la facilité.
Antoine Hiers, on arrive exactement au point que je voulais évoquer avec vous, c'est que c'est le sous-titre de votre livre, il a suffi d'une fois. C'est-à-dire que de manière très claire, vous battez en brèche l'espèce de tendance du moment qui dit ouais, une fois de temps en temps, etc. Non, vous dites de manière très claire que si on met le doigt dans l'engrenage, on est avalé tout entier et le livre est assez brutal, même sur votre propre état, les fins de soirée très glauques.
Je veux dire ce qui me choque énormément. Ce qui me choque énormément, c'est qu'on est dirigé par un pays de personnes qui ne connaissent rien, n'a rien. Mmh. C'est-à-dire que ces gens-là nous parlent de travail, ils sortent, moi j'ai parlé de Gabriel Attal, il sort de l'école, il a calculé tous ses ratios, mais il n'a jamais travaillé de sa vie. C'est pas ce que c'est de faire un emprunt, de payer des salaires à la fin, d'avoir la trésorerie ou pas, d'être en stress, tout ça ils savent pas. La drogue, ils savent pas de quoi ils parlent. J'ai entendu le jour Macron dire, on va peut-être pousser l'amende de 500 à 800. Enfin, renseigne-toi mon chéri, j'ai pris 820 euros pour ma première fois. C'est déjà 800 euros. Mais de quoi il parle? Et quand on parle de drogue, là, c'est pareil. C'est quoi de question, pardon?
C'est la façon dont une seule fois suffit pour être complètement.
Oui, pardon, c'est ça. Voilà. C'est qu'on parle mal de la drogue aussi. Mmh. Ce n'est plus les mêmes drogues qu'avant. Aujourd'hui, on est le premier pays importateur et consommateur. Pourquoi? Mais parce qu'effectivement, la drogue n'est plus la même. Mmh. Moi, quand je prenais de la drogue un petit peu parfois il y a 20 ans, elle était coupée avec plein de produits. Elle était pure à 50-52%. Les drogues qu'on voulait.
La cocaïne aujourd'hui, elle est différente.
Elle est complètement différente. Mmh. Aujourd'hui, comme elle est beaucoup moins chère à produire, beaucoup moins chère à importer et beaucoup moins chère. Il y a 20 ans, c'était 120 euros un gramme. Hein. Maintenant, c'est 70. Quand vous êtes un habitué comme moi, j'étais à 55, vu j'achetais en gros 55 euros le gramme. Et 10 à 15 euros un gramme de 3MC pour les mots.
Mais Mathieu, regardez, pour les jeunes, vous disiez que la classe politique ne maîtrisait pas, absolument pas d'abord le sujet, mais regardez
aujourd'hui. Pardon, pour finir, c'est que du coup, comme elle est pure maintenant à 90%, avant il vous fallait peut-être en un an pour être. Maintenant, si vous en prenez tous les jours, au bout de 6 mois, c'est terminé. Terminé, vous avez grillé le cerveau. Elle est hyper pure.
Et la question, c'est aujourd'hui. Il a suffi d'une fois. Et pour éviter que ces jeunes, ou en tout cas que les gens tombent sur la première fois, la prévention, c'est quoi?
De protéger vos enfants.
Voilà.
Ne comptez pas sur l'État.
Déjà. Et puis la prévention de l'État, c'est quoi? C'est prendre soin de ça et transmettre le rapport au corps. C'est-à-dire que si je commence une première fois, voilà ce qui m'arrive.
La prévention de l'État, je veux dire quelque chose. Quand je vois que l'État, je ne sais pas si vous êtes pour, mais quand je vois qu'il y a un débat autour de la dépénalisation du cannabis,
ah bah tiens Mathieu, on va y revenir parce que c'est un débat à mon avis qui va être lancé notamment lors de la prochaine présidentielle parce que ça revient régulièrement, mais peut-être qu'il est temps de trancher. Est-ce qu'il faut oui ou non dépénaliser le cannabis puisqu'on n'arrive pas à lutter contre le trafic. Mathieu Delormeau est face aux grandes gueules. À tout de suite sur RMC.
Merci.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Mathieu Delormeau est face aux grandes gueules, Abel Boyi, Antoine Dierz, Zora Habitant avec ce livre Addiction au pluriel aux éditions Le Duc. Il a suffi d'une fois. Mathieu qui revient sur ses années de toxicomanie. Aujourd'hui, tout va mieux. Il a repris le chemin des plateaux télé. Tout beau, tout neuf sur W9, présenté par Cyril Hanouna. Ce livre, en fait, on l'écrit pour soi ou pour envoyer un message?
Ah non, vraiment, pas pour moi. Je peux même vous dire que c'est un petit peu compliqué la promo, pour être très honnête, même si je suis ravi. Du coup, je rencontre des gens et des émissions que je connaissais pas. Mais du coup, on parle que de ça. Mais, vraiment, c'est pour la première fois de ma vie, je me suis dit, que faire de ces deux années, trois années très sales? Comment essayer d'en faire quelque chose, comme de l'argent sale? Vous savez, vous avez gagné. Et je me suis dit, il faut que je sois utile. C'est la première fois de ma vie où vraiment je fais quelque chose pour les autres, pour être utile. Vous connaissez un petit peu les livres pour savoir que c'est pas forcément pour s'acheter une maison. Donc, c'est vraiment pour être utile, amener un truc de A à Z. C'est pour ça que je fais autant de promos. Et vraiment pour être utile, avoir des retours. Et puis si ça sauve une personne, on aura gagné. Juste dire un tout petit mot, si vous permettez, c'est important. Juste un petit mot sur quelque chose, encore une fois, sur l'État. C'est pas que j'en veux à l'État, mais encore une fois, je me dis, s'ils ont une méconnaissance à ce point des sujets sociaux, mais qu'est-ce que c'est sur l'économie? Quand j'entends l'autre jour Emmanuel Macron dire, il faut durcir la pénalité pour les gens qui consomment, les gens qui consomment, il faut maintenant les déculpabiliser. Pourquoi ils n'osent pas en parler? Parce qu'on n'arrête pas de leur dire qu'ils sont coupables. Ils sont malades. Un psychiatre vous dira que s'il y a un centre d'addictologie ou de neurologie dans un hôpital, c'est pas parce qu'il y a trop de place et qu'on pensait faire une boîte de nuit. C'est qu'effectivement, c'est une maladie. Alors le président dire ça, c'est comme s'il disait à une personne handicapée, on va couper les aides aux handicapés parce qu'il faudrait qu'ils courent un peu maintenant.
Oui, mais ça va même plus loin puisque le ministre de l'Intérieur peut dire, par exemple, que celui qui consomme du cannabis est responsable de la mort des gamins à Marseille qui s'entretuent pour
absolument,
le trafic.
Absolument, c'est ce qu'on nous fait croire. Vous voyez comment on nous culpabilise. Pourquoi moi je parlais jamais de drogue à personne? Parce que je me sentais coupable et on me disait, en plus quand t'achètes un gramme, il y a un enfant au Venezuela qui a travaillé dans les plantes de coca sans gants, qui a été tué par des...
Et ça marche pas la culpabilisation?
Bah non.
Si mon temps met tellement.
T'es malade, donc ça marche pas.
Mais non, le premier but d'un malade, le premier point de malade, c'est de parler.
Exactement.
Et là, déjà, les gens n'osent pas parler.
Donc il ne faut pas juger les consommateurs comme des délinquants, c'est ce que vous dites.
Exactement. Il faut juste vous dire que ce qu'on appelle la drogue récréative, les gens qui prennent un peu de cocaïne, de GHB, comme ça, une fois tous les deux mois pour s'amuser, c'est lambda, ça, en pourcentage.
Oui, mais pendant longtemps, est-ce qu'on n'a pas banalisé, notamment le cannabis, où finalement c'était sympa, tendance, de fumer un joint, de prendre un petit rail de coke, dans certains milieux, parce que la coke avant était plutôt réservée à une élite, maintenant c'est démocratisé, on le voit bien, parce qu'elle coûte plus rien, mais on a un peu banalisé ce discours, la drogue c'est pas très grave.
Ben, vous avez raison, mais ça fait des deux problèmes. Le premier problème, c'est que l'alcool, en fait, l'alcool n'a pas suivi. En fait, si vous parlez avec des jeunes un peu, moi j'en connais beaucoup entre 20 et 25 ans, pourquoi les boîtes de nuit ferment? 10, 12 euros un verre d'alcool, ils vont s'en payer peut-être 4 dans la soirée plus l'entrée, ils peuvent pas lâcher 50 euros. Un gramme de drogue, le lendemain, t'es moins abîmé que par l'alcool, enfin, ils ont l'impression, et puis effectivement, ils achètent un gramme 10 euros, et avec 10 euros, ils sont 4 dessus pendant 5 heures, ils sont 10 fois plus excités qu'avec l'alcool. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Et puis, le deuxième problème aussi, c'était de quoi on parlait, pardon.
Je parlais de cette banalisation, en fait.
Banalisation,
parfois, on a eu un regard peut-être trop, trop sympathique sur tout ça.
Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que dans les cures, le numéro 1, c'est la marijuana. Moi, je pensais que les gens allaient faire des cures pour la drogue.
Ouais.
C'est la marijuana, 2, l'alcool, 3, la cocaïne.
Donc le cannabis, c'est aussi dangereux.
Mais évidemment, et tous les médecins vous diront que, à la limite, pardon de le dire, mais si vous commencez à 20, 25 ans, bon, c'est pas bien. Mais surtout, c'est là que je dis protéger vos enfants. Si vous laissez vos enfants démarrer à 14, 15 ans, fumer 5, 6, 7 ans, c'est irrémédiable. La catastrophe sur les neurones, sur le cerveau est irrémédiable. Quand j'ai fait des cures et j'en ai fait 3, les locs que je voyais les plus abîmés, c'était des gens qui étaient des consommateurs de 15-20 joints par jour depuis 10 ans. C'est terminé. Vous êtes à côté des locs comme ça. C'est ouais. Vous leur parlez, comment ça va? Ben, c'était bien. Entre 10 et 20 ans, les effets de la cannabis, du cannabis, encore une fois, je parle pas d'un joint de synthèse, mais quand vous consommez régulièrement, c'est irrémédiable. J'aimerais tellement dire aux gens, je vous en prie, lisez ce livre, c'est une catastrophe. C'est
que répondez-vous à ceux qui disent, il faut dépénaliser le cannabis, de toute façon, la répression, ça fonctionne pas?
Eh ben, je répondrai à la phrase que j'ai entendue de Jérémy Ferrari l'autre jour, l'humoriste. Il fait 9 ans et demi qu'il boit plus. Et l'autre jour, il était en scooter et il a dit, j'ai vu un mec prendre une bière, j'ai eu ce qu'on appelle un craving, c'est-à-dire une envie forte, j'ai tout de suite accéléré, je suis reparti. Donc, 9 ans et demi après, quand vous êtes alcoolique, drogué, vous avez un monstre en vous que vous endormez. Et toute votre vie, vous allez faire en sorte qu'il ne se réveille pas. Là, il a vu une bière. Mais ce qui est compliqué, c'est que moi, par exemple, si un soir, ça m'est déjà arrivé il y a quelques mois, d'avoir une envie, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, j'ai enlevé tous les dealers de mon téléphone. J'écris un texto à un pote pour dire, envoie-moi le numéro d'un dealer. J'ai prévenu mes potes, comme se faire interdire de casino. Ils me disent, non, je t'envoie pas. Bon, le temps de trouver tout ça et voir un dealer qui va mettre 40 minutes pour venir, mon truc, il est passé. Mais quand vous êtes alcoolique, quand vous avez une crise, pendant 2-3 minutes, votre cerveau, s'il n'y a pas quelqu'un pour vous tenir, ne pense plus à rien.
Partout.
Et ben, vous descendez, vous avez pris une bière, et c'est fini.
Mais du coup, là,
l'épisode du cannabis, effectivement, le fait qu'on ne puisse pas s'en procurer, c'est quand même un souci. Moi, par exemple, quand j'ai arrêté, j'ai voulu reprendre un peu de cannabis, je me suis dit, si la police arrive et que j'ai une garde à vue, c'est terminé, ma vie. Je ne peux pas m'arrêter une troisième fois. Donc, ça fait peur, quand même. Si c'était en vente libre, je pense qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis moi tous les jours.
Mais Mathieu, regardez la classe politique, en tout cas, ces derniers temps, on entend beaucoup parler de la lutte contre le narcotrafic, qui est où il n'y a pas vraiment de solution pérenne en ce moment. Et à côté de ça, la dépénalisation du cannabis qui rend banale la consommation d'une drogue. Donc à la fois, ils n'ont pas de solution pour faire en sorte que le narcotrafic se réduisent, parce que je pense qu'ils l'arrêteront jamais, mais il y a une culture en France où la
madame,
drogue...
Leur manque de compétences, on ne doit pas, nous, le payer, ou la santé des Français, le payer. Oui. Là, en fait, ils démissionnent face aux narcotrafiquants. On n'y arrive pas. Mais battez-vous. Moi, une fois, je fais une garde à vue et le flic me dit, si tu veux, on t'enlève 10 heures de garde à vue si tu me donnes le numéro de téléphone du mec de la plateforme sur laquelle tu commandes. Bah, j'en dis, je suis désolé, mais fais ton boulot, mec. Je ne vais pas te le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on doit aujourd'hui fumer du cannabis légalement parce qu'ils sont incapables de gérer les frontières. On doit effectivement donner les numéros des mecs. Mais faites votre boulot, les gars.
Mais Mathieu, la drogue, ça a quand même été pendant des années, et moi je suis sur le terrain depuis longtemps, ça a quand même été une paix sociale. C'est-à-dire, c'est pas arrivé ce matin. Ça fait longtemps que dans la culture
quartiers.
Française, bien sûr, la paix sociale...
Et l'économie parallèle.
L'économie parallèle, elle a été assumée et on a fermé les yeux dessus, bien sûr.
Au matin, on parle même de villes qui deviennent des villes de narcotrafic.
Bah bien sûr, c'est des petites économies parallèles. Mais maintenant, l'économie des narcotrafiquants, c'est quasiment
c'est
un tiers de la dette.
C'est
gigantesque maintenant. Oui. On ne peut plus, effectivement, entre la Belgique et ça, on ne peut plus contrôler.
Donc on a toléré au départ ce qui est devenu un monstre aujourd'hui.
Bien sûr, quand vous allez dans un commissariat, je vous promets que c'est vrai, vous faites le n'importe où dans Paris, vous allez dans un commissariat à 2h du matin, vous êtes arrêté pour une garde à vue, tous ceux, à 80%, demandez à un flic, 80% des gens qui sont là, c'est que le lendemain, t'as commandé à qui, t'as machin. Ce n'est que ça. Toute la nuit, bien devant les violences.
Et puis pour corroborer le fait que les politiques ne comprennent rien, demain on légalise. Dans le cannabis, il y a la culture, la récolte, et il y a même l'aromatisation.
Absolument.
On trouve de la beuh au chocolat.
Bien sûr.
Et on sait que c'est la beuh à la banane qui est réputée pour défoncer le plus. Bon. Et en plus, les consommateurs ont un lien, même je dirais humain, d'amitié avec leur dealer, en fait. Donc on est, et il y a eu pendant longtemps ce discours, si on légalise le cannabis, ils vont passer à des drogues les plus dures. Aujourd'hui, tout est mélangé en réalité.
Sauf que là où la phrase est juste, c'est que vous connaissez beaucoup de gens qui ont commencé directement à la cocaïne, vous?
Non.
Moi non plus.
Donc on commence quand même par le cannabis.
Bien sûr. C'est un peu comme une cigarette, on se drogue pas. Mais ça fait quand même un effet. Je trouve que ça fait bien l'effet aujourd'hui, un beau cannabis. Tu t'as de l'effet, t'es comme ça. Et puis une fois que t'as l'effet, mais t'as déjà essayé un truc qui est un peu pas mal, une extra, un machin, un peu dedans. Bien sûr, je comprends pas quand même. C'est pour de l'argent qu'ils font ça. C'est pour de l'argent. Bien c'est sûr. Fascinant. Ils nous tuent pour de l'argent, l'État.
Et on Antoine Hiers.
Ouais. Petite question. Dans votre livre, vous dites jamais que c'est la faute du show business, en fait, du milieu dans lequel vous travaillez, vous vivez. Moi, je pense que c'est un peu lié et j'ai une vraie interrogation. Aujourd'hui, vous voulez vous en sortir et en même temps, vous choisissez de revenir dans ce milieu qui, pour moi, porte un peu en lui toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Est-ce que vous a pas traversé l'esprit de dire je m'en vais, je vais vivre à la campagne, me reconstruire,
ou
loin de Paris,
chose.
Loin de ce milieu, faire autre chose?
Non, c'est gentil, mais je pense que là...
Il n'y a pas un risque?
Non, je pense que ce que vous dites, c'est exactement comme si je disais, voilà, je suis malheureux, je ne pars pas vivre aux États-Unis. Bon, t'es en merde,
viens dans la vie. C'est pas votre milieu qui vous a amené à ça.
Votre patron n'est pas drogué. Il y a pas. Quand même faire un petit dépistage. Mais non, je pense vraiment que je voulais surtout pas trouver d'excuses. J'accuse pas l'État, j'accuse pas machin. On m'a pas mis de la cocaïne dans le nez.
Oui, vous avez été à la facilité. Mais est-ce que pour prolonger la question d'Antoine, est-ce que l'exposition médiatique, la pression, la notoriété, ça peut faire péter un plomb? Est-ce que ça favorise pas? Est-ce que c'est pas un terreau favorable, effectivement, quand on a des propres fragilités, à tomber dans des addictions? Il y a peut-être des métiers. Alors, ce que je dis peut être contredit, parce que maintenant, ça touche tous les milieux sociaux, tous les milieux professionnels. Hein. Il y a des comptables qui se droguent, il y a des maçons qui se droguent. Mais quand même, le milieu dans lequel vous évoluez...
La télé a pu vous faire du mal, je vais être encore plus clair. La télé vous a fait du mal et vous revenez à la télé.
Évidemment, et avant, je faisais de la finance. En fait, ce sont que des métiers qui font du mal, parce que ce sont des métiers à dopamine. Voilà. La bourse, la télé, c'est des métiers où là, par exemple, je suis avec vous... En fait, on a une dopamine à l'antenne. Quand je vais rentrer dans le taxi, je vais être un peu comme ça pendant une demi-heure.
Et je vous ai vu juste avant, et je vous ai vu au moment de prendre le micro, et effectivement.
Ah, mais moi, je suis comme avant de lire, voilà. Je m'allume avec la lumière.
Non, mais est-ce que
vous avez raison? Bien sûr, vous avez raison.
Réfléchi en disant, bon, après, il faut gagner sa vie, mais est-ce que je reviens dans ce que je savais faire, ou est-ce qu'il faut que je parte ailleurs?
Je me protège beaucoup. Pour dire la vérité, par exemple, je ne regarde jamais les réseaux sociaux. Jamais, jamais. Je me fais maquiller, je fais l'émission.
Pourquoi vous avez peur de quoi sur les réseaux sociaux?
Je prends un taxi, je rentre chez moi, j'éteins tout. Parce que je veux pas lire sur Twitter, je veux pas lire des phrases horribles. Les gens sont tellement méchants. Ouais. Si par exemple vous dites un truc un peu excitant, c'est mais il est défoncé ce soir. Si par exemple t'es un peu mou, non mais il est complètement stone. Non mais il est ravagé. C'est
permanent.
Voilà, moi j'ai vraiment fait un trait sur les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas. Et voilà, je parle avec des gens, les gens dans la rue, les gens qui ont le courage de venir me dire je t'aime ou je t'aime pas. Mais voilà,
les gens qu'on rencontre dans la rue sont étonnamment différents des gens sur les réseaux sociaux. C'est pas les mêmes.
Ouais. Disons que le problème c'est que ceux que vous rencontrez dans la rue, ils vous aiment bien. C'est rare de dire tiens, je vais aller voir un tel pour dire que c'est une grosse conne. Donc effectivement, quand vous rencontrez que des gens qui vous aiment bien, ça donne un peu le problème de Zemmour qui disait dans la rue tout le monde me dit viens me sauver. Oui, dans la rue. Mais tu penses pas aux 90 autres qui viennent pas te parler.
Par rapport à votre famille, vos proches, vous avez parlé à plusieurs reprises de votre relation avec votre père, qui a été un petit peu en dents de scie. A-t-il lu l'ouvrage? Qu'en a-t-il pensé?
Non, il est pas. Comme il sort le 23, je reconnais que c'est un peu la panique. C'est la panique parce que ni ma famille, ni mes amis, je n'ai raconté ma vie à personne. Je ne l'ai fait lire à personne, à part l'éditeur. Il a été écrit en secret. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir, que je connais pas, d'autres que je connais. Il y a quand même des choses dedans un peu hard. Donc, ils l'ont pas lu. Au moment où je vous parle, pour être très honnête, c'est pour l'instant c'est relation zéro, avec ma sœur, ni avec mes parents. C'est ça aussi, il faut le dire. On perd tout avec la drogue. On perd la famille, on perd son argent, on perd son travail, on perd tout. Moi, les amis, je ne retrouverai jamais. J'étais trop violent, trop fou. Trop...
Mais ce livre, ça va peut-être permettre de renouer.
Dieu vous entende.
Ça sert un peu à ça aussi.
Mais
quand
c'est
même
pas le but, je pense que vous l'avez pas écrit dans ce but-là.
Ce qui est vrai, c'est que je l'ai écrit de manière à ce qu'il n'y ait aucune vengeance. C'est quand vous écrivez un bouquin, vous dites tiens, je vais l'allumer. Non, il faut surtout pas sortir de l'addiction. Qu'on me dise pas c'est un bouquin sur la télé, les coulisses. Non, il y a pas de Hanouna machin. On reste sur l'addiction.
Oui, mais c'est ça qui est bien.
Donc il y a pas de vengeance. Après, effectivement, sur la famille, j'ai essayé d'être très neutre et de pas rentrer dans les détails.
Si par exemple, si votre sœur ou le père écoutait, vous auriez envie de lui envoyer un message?
Ah, aujourd'hui, oui.
Ouais, lui dire quoi?
Ah, aujourd'hui je dirais, déjà ça m'émeut donc c'est bon signe. Aujourd'hui je dirais, si on profitait du temps qui nous reste, si on effaçait l'ardoise, si, donc voilà, je pense qu'il faut. Non, ça m'émeut, mais oui, en tout cas c'est une main tendue. La famille me manque, ça c'est vrai.
Merci Mathieu d'être venu.
Merci à vous.
Face aux grandes gueules. Ce livre qui sort demain, il a suffi d'une fois aux éditions Le Duc ou Mathieu Delormeau.
Merci de votre invitation.
Ce livre, sincèrement, et raconte ses années d'addiction. Dans un instant, on va parler de toute autre chose et c'est ça les grandes gueules. C'est le sel des GG. Cette route du Tour de France avec des arbres qu'on doit abattre pour faire passer les cyclistes et la grande boucle, ça se passe dans le Bas-Rhin. Certains habitants sont un peu quand même étonnés qu'on soit obligé d'abattre près de 900 arbres en ce moment pour faire passer le Tour de France. On en parle dans un instant sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story. On était en train de débriefer là entre nous ce qui s'est passé là, Mathieu Delormeau qui était avec son livre Addiction. Il racontait ces deux années de toxicomanie très très grave. Hein. Il a failli en mourir. Et il est terminé en garde à vue avec Abel Boyi, Antoine Dier, ses habitants. C'est vrai que c'est un témoignage fort, Antoine.
Moi, j'ai bien aimé. Il est hyper clair. Il dit, il y a pas de bonne drogue, il y a pas des petites drogues, il y a pas une seule fois. Il dit, dès le cannabis, on risque de basculer dans la grande descente qu'il a connue. Donc, il a un message important. Voilà, n'essayez pas. Il le dit clairement.
Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a accepté de mettre son image de côté pour se mettre à nu. Et puis, ce que j'aime, c'est que d'un côté,
c'est jamais évident de se raconter dans des moments où on n'est pas quand même.
Et d'un côté, il expose sa fragilité, mais dans le livre aussi, il explique que c'est lui qui est responsable de sa chute.
C'est
en fait,
très juste.
La responsabilité.
Il cherche pas des excuses.
Exactement.
Même sur le show business, quand je lui ai demandé, il dit non.
C'est ça. Il cherche pas des excuses. C'est très important. Oui, il y a besoin d'accompagner les gens sur le plan sanitaire, mais il y a la responsabilité individuelle.
Bien entendu.
Mais moi, j'ai trouvé que son témoignage est d'une très grande dignité, et c'est vrai que d'avoir une exposition publique. Elle oblige, mais en même temps, de s'en servir comme ça. Mmh. On a eu, pour faire un peu le parallèle, mais qui n'a rien à voir, mais quand Gabriel Attal étale sa vie, c'est pas la même forme et c'est pas le même résultat. Mathieu Delormeau, c'est quand même, moi je trouve que c'est digne et courageux. Mmh. Parce que c'est très intime et en même temps, sa dignité, c'est de dire je suis responsable. Donc, si ça peut être utile, je pense que c'est un livre qui devrait servir de base en disant, parlez, et on vous jugera pas. On va plutôt essayer de comprendre.
Allez, pour terminer, je voudrais qu'on garde quelques minutes pour parler de ce qui se passe en ce moment même du côté du Haut-Rhin sur une route qui va voir le 18 juillet prochain passer les coureurs du Tour de France.
On en connaît un, il chauffe les gens à chaque fois, aux armes citoyens.
Citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain. Aux arbres citoyens, pourquoi parlons-nous des arbres par rapport au Tour de France? Parce que le 18 juillet prochain, la 14e étape du Tour de France va conduire le peloton de Mulhouse au Markstein. Nous sommes donc dans le Haut-Rhin et en prévision du passage de la Grande Boucle, la route va faire l'objet d'un vaste chantier de sécurisation. Et pour ça, on doit abattre près de 900 arbres, 872 précisément, sur cette route. Et donc on va la fermer, on la ferme pendant un mois pour abattre ces arbres et pour pouvoir laisser passer le Tour de France. Alors forcément, ça crée la polémique. Alors on nous dit, du côté de la direction, Christian Prudhomme, qui est le patron du Tour de France, il dit, quand même, il faut rappeler que grâce au Tour de France, des routes sont refaites chaque année, alors qu'elles ne l'auraient jamais été. Et en rappelant d'ailleurs que ce n'est pas le Tour qui impose ces travaux. Et en revanche, il y a certains habitants qui disent, quand même, c'est un peu embêtant, parce que pourquoi supprimer tous ces arbres? Alors visiblement, certains arbres sont malades, d'autres gênants. C'est une problématique. Il y a aussi des troncs de bonne qualité qu'on va couper et qui va permettre à l'entreprise qui fait ça de se rémunérer. Ça payera, elle va se payer sur la revente du bois. Alors, ça fait quand même beaucoup, 872 arbres. Est-ce qu'on est là quand même? Abel, ça te fait sourire.
Mais c'est un petit peu beaucoup. C'est-à-dire que les personnes qu'il faut écouter sur la connaissance du terrain, c'est qui? Ce sont les habitants.
Oui,
qui
bien sûr.
C'est-à-dire ils habitent là depuis des années et on est en train de leur dire non, on connaît mieux que vous chez vous, quoi. C'est quand même dramatique. Et le ridicule, c'est quoi? Le vélo, c'est le symbole du transport écolo. Qui est embrigadé dans un système qui s'en fout totalement de l'écologie. En plus, on dit aux habitants, fermez-la, grâce à nous, vos routes vont être refaites. Donc, il n'y a rien qui va. Et puis, le Tour de France n'avait pas forcément l'obligation de passer par ce tracé. Ça existe depuis tellement longtemps. Il y avait la possibilité de trouver un arrangement. Donc, encore une fois, même dans le domaine sportif, comme on peut le voir, ce sont les Français qui sont mis
droit. Le maire défend les
habitants disent que c'est bien de rénover la route. Ils l'attendent depuis longtemps, etc.
Au détriment des arbres. Il y a une différence entre remettre une surface de goudron et couper 900 arbres.
C'est la commune de Sewen. Et le maire de Sewen dit, c'est quand même bien parce que ce sont des arbres qui sont au bord de la route et qui menacent de tomber à n'importe quel moment. Ça me paraît beaucoup. 872 arbres qui menacent de tomber.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette question-là, elle date de 2023. Donc aujourd'hui, déjà, on est en retard sur la solution. C'est-à-dire qu'à la veille du Tour de France...
Les travaux ont commencé, là.
Oui, voilà.
Jusqu'au mois de mai.
Donc, de toute façon, la question, il y a la question de la sécurité et puis la question de l'opportunité de réavoir une route. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est le temps. Si ça avait été fait il y a 3 ans, aujourd'hui, la question, elle se poserait plus. Et après, on n'est pas non plus dans un système de taliban où dès que t'abats un arbre, t'es un criminel. Enfin, c'est pas comme ça qu'on pense les choses. Parfois, il y a nécessité d'abattre des arbres parce que en cas de tempête, ce merveilleux arbre peut tomber sur une maison. Et la question de la sécurité des gens, elle passe avant l'écologie, parfois.
Et puis, j'ai eu la chance dans mon enfance de passer du temps dans ces coins-là magnifiques des Vosges. J'ai marché, etc. Des arbres, il n'en manque pas dans les Vosges. J'imagine bien entendu que la route doit être élégante, bordée de ces arbres. Mais, ne mettons pas sur le dos du Tour de France le fait que des arbres doivent être abattus pour rénover une route. La route, elle serait rénovée un jour ou l'autre.
Non, là, c'est rénové pour le Tour de France.
Là, c'est anticipé parce que le Tour va passer là cette année et ça fait longtemps que la route elle doit être rénovée, donc là ils vont le faire. Donc le raccourci, il me gêne toujours un peu de dire c'est à cause du Tour de France qu'on va couper des arbres. Mais non, c'est pour la rénovation de la route. Ensuite, des arbres, on en plante beaucoup. Oui. Et moi je pense que le
on
Tour de France.
On en coupe beaucoup aussi. Hein.
Ouais, mais
on a du bois qui
plante,
part en Chine. Hein.
On en plante plus qu'on en coupe chaque année. On a un pays très arboré avec des forêts entretenues, etc. Et moi je trouve un peu dommage que le Tour de France n'ait pas eu l'idée de dire eh bien écoutez, nous financerons le remplacement de ces 900 arbres où vous voulez, etc. Et voilà, et on clôt la polémique. Un arbre abattu, un arbre planté, voilà.
Mais ah, c'est une bonne idée, ça.
Mais c'est le cas. Hein. C'est, en France, c'est vrai qu'Antoine a raison. La France est un pays très arboré. Pour ceux qui ont la chance de vivre en dehors des grandes villes, on voit bien. Il y a plein d'endroits avec des forêts absolument magnifiques. Et il y a plein d'endroits où parfois on passe, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'arbres coupés. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'arbres replantés. Mais la polémique, elle vient, moi je le répète, c'est que cette question aurait dû être réglée en 2023 parce que c'était déjà le dossier qui était en cours. Et après, c'est vrai, sur la nature, faut pas être taliban non plus, quoi. Tout le monde a envie qu'autour de lui, il y ait de la nature. Personne
n'a
s'amuser
mais moi, je me souviens de maires qui Oui, mais je me souviens de maires qui nous expliquaient, oui, mais vous comprenez, c'est dangereux les arbres au bord des routes parce qu'il y a des accidents. Il y a des gens qui viennent se fracasser contre l'arbre. Enfin, non, ce qui est dangereux, c'est pas l'arbre, c'est l'automobiliste qui a pas maîtrisé sa vitesse et autres. Donc,
Non, mais le danger des arbres, moi, je me souviens, c'est que c'est des,
cet argument me paraît quand même toujours un peu
fallacieux. De gens qui ont des grands, des très grands arbres à proximité de maisons dans des jardins qui sont pas très grands. Là, à la limite, ça peut se comprendre.
Rien de plus beau qu'une route bordée d'arbres. Des milliers de routes qui traversent des forêts. Moi, j'habite à côté de Compiègne. Le nombre de routes avec des arbres à côté, c'est magnifique. Et on n'a pas peur de se dire qu'un arbre va te tomber dessus, même quand il y a un temps de tempête, même quand malheureusement ça peut arriver.
Alexis est avec nous. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Vous nous appelez de Colmar. Je crois que j'ai dit une bêtise.
Oui, oui, effectivement, vous avez cité le département du Bas-Rhin, ça se passe dans le Haut-Rhin, mais vous êtes...
Oui, c'est dans le Bas-Rhin et pas dans le Haut-Rhin. Oh là là. Mais je connais pas bien ce coin-là, c'est pour ça. Pardon.
Bah, donc faut faire les GG dans les Vosges.
C'est dans le Haut-Rhin et pas dans le Bas-Rhin. C'est dans le Haut-Rhin, c'est ça.
L'étape se déroule intégralement dans le Haut-Rhin, oui.
Ah bah moi, j'ai dit dans le Haut-Rhin.
Oui, je crois aussi.
J'ai dit le Haut-Rhin.
Si vous avez rendu l'antenne juste avant, c'était le Bas-Rhin.
Ah, j'ai dit Bas avant et le Haut.
Mais en même temps, le Bas, le Bas est au-dessus du Haut.
Faut que j'arrête les drogues aussi.
Ouais, non, faut qu'il arrête la drogue.
Alexis, vous vouliez dire quoi?
Oui, de crier à l'écocide, c'est trop facile et ça a déjà été dit. Cet investissement.
Vous avez travaillé sur le tracé, hein?
Oui, alors parallèlement, effectivement, puisque je travaille pour la collectivité européenne d'Alsace, qui réunit les deux départements, les deux conseils départementaux depuis maintenant 5 ans, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, et qui a la gestion des routes. Forcément, cet investissement, il était ciblé depuis maintenant 2023, ça a été dit. Le Tour de France est tout simplement un accélérateur. On est dans une zone montagneuse, on ne sait pas du tout quel temps il fera aussi ce jour-là. Il y a énormément d'arbres qui sont en très mauvaise santé ou qui pouvaient tomber d'un instant à l'autre. En termes d'image, ça ne l'aurait pas fait, clairement, qu'un accident se déroule.
Non, ça c'est sûr.
Tour de France, ça n'exclut pas effectivement, comme ça a été dit, le fait que cet investissement aurait pu être fait avant, mais les restrictions budgétaires sont
donc c'est grâce au Tour de France, on a débloqué le budget, quoi, en fait.
Mais partout, dans tous les départements. Le Tour de France est un accélérateur, mais comme les Jeux Olympiques l'ont été aussi.
C'est pour ça d'ailleurs que les villes se battent pour accueillir le Tour de France. Elles payent, hein, pour avoir l'étape du Tour de France.
Elles payent sacrément, oui.
Oui, sacrément même. Certaines villes maintenant refusent d'ailleurs. Elles trouvent que c'est trop cher.
Oui, bien sûr, mais l'investissement pour une ville, pour avoir une ville, en étant ville départ ou ville d'arrivée, pour le Markstein qui accueille l'arrivée, le ticket est à 5-0. Voilà.
Oui, d'accord. Ah oui, c'est quand même beaucoup, hein,
parce que
c'est une petite ville.
Mais là,
quand même,
vous soulevez quelque chose du côté d'Aïsso qui pourrait avoir une contrepartie financière sur ce type d'investissement. Alors, certes, oui, effectivement,
si je comprends bien, Alexis, c'est que Mark Schein donc paye. Alors, vous avez dit 5-0, mais alors vous mettez quel chiffre devant les 5-0? Bah, dites-le maintenant.
Tout dévoiler. Non, mais le ticket tourne autour des 100 000, ne serait-ce que pour avoir l'arrivée.
Donc, Markstein paye 100 000 euros pour avoir l'arrivée du Tour de France. Bon.
C'est la commune alentour, ouais, effectivement, qui est porteuse du projet.
C'est quand même une somme importante. Derrière, en plus, la ville ou la communauté de communes doit payer pour aménager la route.
La communauté de communes doit allonger le double, ne serait-ce que pour avoir les contraintes logistiques pour accueillir.
C'est de l'argent public, tout ça.
Qui est de l'argent public, effectivement. La collectivité européenne d'Alsace, la région Grand Est, abonde aussi. Et les collectivités qui gèrent les routes, forcément, là aussi, doivent avancer des investissements pour accueillir le Tour de France sur ces axes routiers. Certes, effectivement, ce n'est pas le Tour de France et ASO qui demandent
investissements-là.
Ils gèrent quand même fortement.
C'est moyen.
On comprend pourquoi ça marche bien, ASO. Mais ça sera un autre sujet. Merci, Alexis. Mais
il faudra faire quand même
un sujet sur la façon dont tout ça est financé avec de l'argent public.
La liste s'allonge.
Voilà. Estelle Denis nous rejoint pour SL Midi avec un beau programme comme chaque jour.
Olivier. Salut Olivier, salut les GG. Bah, écoutez, on va évidemment parler de cette aide carburant à laquelle personne ne comprend rien.
Mais on en a trouvé deux au 32-16 qui peuvent bénéficier,
deux gros rouleurs
qui peuvent bénéficier, qui rentrent dans tous les critères.
Alors il faut quand même prendre un jour de congé pour remplir la petite feuille, etc.
Oui, surtout
à mon avis, ils misent là-dessus.
Le portail n'a toujours pas été créé, hein, c'est fin mai. Oui, il lance un truc, mais que ça n'existe pas
évidemment,
encore.
Évidemment, c'est l'idée, c'est faire traîner comme d'habitude. Alors, bon, si vous avez été séduit par cette aide, appelez-nous, parce qu'on va quand même se poser la question. Une aide carburant pour les gros rouleurs qui ne roulent pas tant que ça, finalement.
Non.
Les plus précaires, est-ce que vous êtes satisfait de cette mesure? Eh bien, vous nous dites tout, bien sûr, au
32. Gros rouleur, 8000 km par an, c'est pas un gros rouleur pour moi, mais bon.
Non, bien sûr que non. C'est incroyable. Bon, on parlera également, vous savez, des stages obligatoires en entreprise. Il y a encore eu un élève qui est décédé là dans une entreprise de bâtiment. Est-ce qu'il faut arrêter avec ces stages obligatoires, des stages qui mettent en danger les élèves, des personnels d'entreprise pas formés? On en parlera à 12h30. Pouvoir demander le casier judiciaire des personnes qui gardent nos enfants pour ou contre, ça ce sera à 13h30. Et puis il y a de plus en plus de communes, dont Paris, qui veulent mettre fin à Airbnb. Amende de 585 000 euros là à une société qui avait en fait transformé un immeuble en logement Airbnb à Paris. C'est une demande record. Bonne ou mauvaise idée d'arrêter les Airbnb? On en parle avec vous à 14h.
Et le tu préfères?
Soquette ou chaussette? Oui. Alors, vous savez que les chaussettes longues reviennent à la mode. Les chaussettes de basketteur,
ça
revient à la mode. Mais
avec un short, on met ça.
Mais oui, les jeunes mettent ça.
Même avec des jupes.
C'est pas vous, Olivier, évidemment, vous n'allez pas mettre des chaussettes de basket avec un short.
C'est pas possible, les jeunes, qu'est-ce qui se passe?
C'est pas possible.
Qu'est-ce qui se passe dans cette jeunesse?
On a été jeunes aussi, Olivier.
C'est vrai, on faisait n'importe quoi aussi.
On a aussi mauvais goût.
Moi, je suis plutôt soquette quand tu mets des baskets en short.
Moi, je suis chaussette.
Non, moi, je suis team cheville nue. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est les soquettes invisibles.
Voilà. Oui, c'est les soquettes qu'on ne voit pas.
Exactement.
Non, ça doit pas dépasser du bord de la chaussette.
Pareil, Antoine. Il est comme ça, Antoine. Rien ne dépasse avec Antoine.
C'est dans ton sûr. Ça, on avait bien compris.
C'est des gens qui n'ont pas froid aux pieds.
Voilà.
Oui. C'est ça, en fait.
Bon, ben voilà, c'est bien tout ça.
Oui,
allez, on vous attend au 32-16. On se retrouve demain à 9h avec Joël Dagossieri, Charles Consigny et Laura Varto-Martinez.
À bientôt.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.